en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Sur la façade de la ferme établie dans une ZAD quelque part en France, l'inscription « Invitation à la révolte ». Et c'est peut-être un peu comme ça que l'on ressent cette nouvelle série de bandes dessinées qui parle des animaux et qui les fait parler, mais qui au fond parle de notre humanité, de la façon dont l'homme regarde et considère les animaux et comment il les traite sous prétexte de se nourrir, de se divertir ou de se faire servir. Un album qui fait réfléchir donc, mais à travers une histoire solide, des décors réalistes, des personnages attachants. Il y a Néo le cochon, Renata la vache laitière, bavarde comme une pie, le chien Flèche, Bruce, le bœuf des Highlands, destiné à la boucherie, Swazik, la brebis bretonne, au caractère plus que bien trempé, sans oublier Ignoble créature, un chat borgne toujours prêt à un mauvais coup. Ce sont les héros de cette odyssée animalière avec du suspense, des scènes d'action qui peut générer successivement l'attendrissement, le rire, une petite larme et des accès de colère, bref, qui vous laissera tout sauf indifférent. À mort les vaches, le tome 1 de l'Arche de Néo, scénario de Stéphane Bette-Bédé, dessin de Paul Frichet et paru aux éditions Glénat, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Néo, Stéphane Bette-Bédé, c'est un cochon, c'est un cochon nain,
oui,
mais c'est une grande star.
C'est une ex-grande star déchue qui a grandi trop vite et qui n'intéresse plus les annonceurs, parce que quand il est né cochon nain, il a attiré tout le monde parce qu'il était tout mignon, tout kawaii, et maintenant il a grandi, donc il n'intéresse plus personne.
Il n'a plus la taille mannequin, quoi, en quelque sorte.
Il n'a plus la taille mannequin, exactement.
Voilà, donc il a fait une carrière fulgurante dans la publicité, sur les réseaux sociaux, on a énormément partagé ses photos plus ou moins scénarisées. Et la première chose, d'ailleurs, quand on se dit, quand on ouvre l'album, Paul Frichet, c'est « mais qu'est-ce qu'il est mignon ?» ou « qu'est-ce qu'il était mignon, quand même, ce Néo ?» En fait, après le LOLcat, vous avez inventé le LOLpig.
Bah oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que c'est entre guillemets le souci pour ces cochons, c'est quand ils sont petits, ils sont tout petits, mignons, puis quand ils grandissent, ils deviennent énormes, et c'est plus du tout la même histoire, quoi. Donc c'est un peu l'animal dont on peut disposer après, ou dont on veut disposer, parce que c'est plus possible.
Oui, c'est déjà une façon de dénoncer, dès la première case, finalement, oui. L'utilisation que l'homme peut faire d'un animal.
Il y a plein d'histoires assez sordides sur, justement, des gens qui deviennent des propriétaires de cochons nains, qui ne savent pas que ça grandit, que ça peut aller jusqu'à 80 kilos et avoir une envergure assez énorme, pensant qu'ils vont rester toujours petits et qu'ils les abandonnent parce qu'ils ne savent plus quoi en faire et que les vendeurs ne leur disent pas, bah, ça va continuer à grandir.
Voilà, effectivement, il faut faire attention, hein, avant de prendre un animal chez soi. Qu'est-ce qui vous plaît quand vous dessinez Néo, Paul Frichet? Il y a un détail particulier qui intéresse le dessinateur que vous êtes, ou bien vous dites que dans le cochon, tout est bon?
Bah, je ne sais pas en particulier pour Néo. Ce qui me plaît en particulier, c'est d'arriver à le faire vivre et de le rendre expressif tout en le gardant cochon, en fait.
Oui, alors justement, le cochon, c'est quoi? Graphiquement parlant, on pense à la queue en tire-bouchon, on pense au groin, aux oreilles, on pense à la rondeur aussi.
Il y a aussi une silhouette un peu balourde, entre guillemets, dans le sens où c'est pas un animal qui est forcément très souple, qui est très élancé, donc ça fait partie des défis qu'il y a aussi à relever quand il faut le faire bouger. En fait.
Oui, parce qu'il y a un autre cochon, hein, qui vit dans la même dans la même ferme, mais qui lui ne ressemble absolument pas à Néo.
Et lui ne bouge pas du tout d'ailleurs parce qu'il se prélasse dans la boue.
Oui. Alors justement, c'est deux cochons complètement différents.
Complètement différents. Oui. Parce que
c'est des races différentes.
Déjà, oui.
Déjà, mais aussi des modes de vie complètement.
Différent, oui, parce que c'est parce que quasi c'est presque un néo-rural, non pas néo-rural, c'est pas le terme, mais c'est presque encore un citadin qui vit à la campagne, alors que l'autre c'est un vrai bouseux, entre guillemets.
Voilà, qui se vautre d'ailleurs, oui, un petit peu dans la boue aussi, donc ouais. Au sens propre comme au sens figuré, hein, Stéphane Bette-Bédé.
L'idée étant que les animaux qu'on retrouve de basse-cour sur la ZAD, parce que ça se passe à Notre-Dame-des-Landes au niveau du décor, sont des animaux qui ont été récupérés par, ça c'est du background, hein, c'est du hors-champ, par des militants antispécistes qui ont récupéré ces animaux parce qu'ils étaient maltraités. Et donc c'est le cas de Jean-René, qui est ce gros cochon qui se vautre dans la boue et il est très heureux comme ça, c'est comme ça qu'il est bien. Voilà. Et lui, on peut lui imaginer qu'il a eu un passé assez assez sordide.
Voilà, donc contrairement au passé de Néo, qui donc lui était plutôt un passé de gloire, Néo qui rêve d'ailleurs de vivre dans une sorte d'Eldorado. Hein. Alors moi je savais pas que ça existait, hein, cette Pig Island qui se trouve aux Bahamas, mais c'est vraiment une île qui existe dans la réalité. Peut-être pas tout à fait comme Néo l'imagine, mais quand même.
Ah, c'est pas si loin. En fait, c'est vraiment cette image, l'image de cochons batifolant dans un lagon bleu pur sur un sable blanc fin.
C'est l'image carte postale. Hein.
L'image carte postale qui a suscité l'idée de cette série, en fait. J'avais depuis longtemps.
Ah, vous êtes parti de là?
Ah oui, carrément. C'est comme ça que je fonctionne pour la grande majorité de mes scénarii. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi la bande dessinée. C'est que je m'influence énormément. J'ai besoin d'un appui visuel pour commencer une histoire. Et je vois une image, et elle me suscite des scènes, et à partir de là, je peux construire une histoire. Et donc, j'attendais d'avoir un moment clé, une image clé pour démarrer une histoire autour des animaux qui me tenaient à cœur depuis un moment, et je suis tombé sur cette perle, ce Graal, qui est Pig Island, cette île des Bahamas, où les cochons sont rois.
Donc, si je vous suis, ça veut dire que l'aboutissement de la série, ce sera l'arrivée ou pas?
C'est leur Graal, en tout
de
cas.
Néo,
c'est
le Graal
de Néo. Oui, c'est ça.
Ah, puis, c'est intéressant. Il y a combien d'épisodes qui sont prévus?
Il y a 6 épisodes.
6 épisodes. Donc 6 albums avec peut-être donc le paradis au bout si effectivement ils parviennent à toucher le Graal.
Exactement. Le but est d'arriver jusque là.
Alors, en attendant la belle vie sur son île paradisiaque, Néo coule donc quelques jours à peu près paisibles parmi les autres animaux de la ferme jusqu'à l'arrivée des poulets, ou plutôt des policiers, venus déloger les habitants de cette ZAD et avec eux toute la basse-cour. L'intervention se déroule en pleine nuit, alors que le cochon Néo et le chien Flèche dorment tranquillement sur le canapé. Une lumière crue vient subitement les réveiller au milieu du salon. Nous sommes page 15 de votre album.
C'est quoi ce grand soleil au milieu de la nuit? Tu crois que c'est l'abattoir qui vient nous chercher?
Ne bouge pas, bro. Ne respire pas. Et attends mon signal, bro. Maintenant, fonce!
Vous n'avez pas le droit! C'est une propriété privée! Pas les pattes, fasciste!
Ne soyez pas docile! Rebellez-vous pour une fois! Ces bergers ne sont pas nos maîtres! Ceux-ci nous veulent du mal! Ne comprenez-vous pas que nous allons être déportés?
Toute expression d'une individualité est bannie de notre communauté.
Nous devons courber les chines et accepter la fatalité. C'est dans notre nature.
Alors qu'il en soit ainsi, sois-y.
Si c'est la guerre que vous voulez, vous l'aurez. On vous attend. On est prêts.
Hé, hey, le cochon domestique, ne reste pas planté là comme un poireau. Bouge.
On va où?
La ferme de Belgrade, les maîtres sont des amis des nôtres. Ils nous feront une place dans leur grange.
Bonne idée! Le vieux coq qui vit là-bas se laisse marcher sur les pattes. Ça ne leur fera pas de mal d'avoir un jeune coq hardi pour remettre de l'ordre dans leur poulailler.
Ne quittes-tu pas?
Ben de moi, pardi!
C'est loin?
Non, mais il va falloir traverser le grand champ à découvert.
Mort aux vaches! Ben quoi? La bouse qui retourne au fumier, ça ne devrait pas vous déranger!
Bon, ben ici c'est la guerre.
On va contourner le champ de bataille, c'est le plus sage.
Foncez, hurle Ferdinand le coq, et c'est le début de l'épopée hein, qui va conduire vos héros, messieurs, jusque dans l'abattoir afin de tenter de délivrer le jeune bœuf qui s'appelle Bruce. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Avec cette scène-là, Stéphane Bedbédé, on est vraiment dans la ZAD, on est vraiment au cœur de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez prononcé d'ailleurs vous-même le nom tout à l'heure. Vous vous êtes rendu sur place au moment, avant l'évacuation?
Oui, je suis allé plusieurs fois. Petit aparté, félicitations aux réalisateurs et aux acteurs pour ces petites pastilles qu'ils ont fait. J'y étais complètement, bravo à eux. Oui, j'y suis allé plusieurs fois. Et je suis même allé rencontrer une ferme où les gens sont antispécistes, qui sont eux-mêmes, enfin qui étaient, parce que c'est plus le cas aujourd'hui, qui étaient eux-mêmes voisins de jeunes néo-ruraux qui, eux, essayaient de faire un élevage éthique. Et donc, voir un peu comment se passait cette cohabitation-là et quel était le rapport qu'ils avaient aux animaux. Et donc, ça a influencé l'écriture des scènes. Et ce qui est important, ce qui fait partie de l'histoire et du processus de création de l'Arche de Néo, c'est que je voulais vraiment qu'ils fassent un parcours physique. Les personnages aillent d'un endroit précis qui était Notre-Dame-des-Landes à Châteaubriant, qui est à 80 km, où il y a un abattoir. Et donc, il était important d'avoir des personnages qui étaient archétypaux,
oui,
sur un décor très réaliste. Donc, j'ai documenté avec énormément de photographies.
C'est-à-dire que la ferme que Paul Frichet dessine, elle existe,
oui,
réellement.
J'ai fait tout pour, en tout cas. Car oui, on s'est resservi d'éléments architecturaux qu'il y avait là-bas, comme la tour, par exemple, ou Renate Amonde pour observer un peu le départ des camions.
Pour la petite histoire, cette tour était l'endroit où était prévu d'avoir la tour pour l'aéroport, en fait. C'était un petit pied de nez des gens qui habitaient à Notre-Dame-des-Landes qui en faisaient une tour d'observation. En fait.
Alors, le bandeau qui entoure l'album, le bandeau rouge, indique que cet album n'est pas recommandé par votre boucher. Sans doute. Alors au départ, on se dit, c'est peut-être un petit peu exagéré quand même, parce que ça peut sembler assez gentillet. Et puis on change d'avis à plusieurs reprises dans l'album, et en particulier quand on découvre les bovins dans l'abattoir, et notamment le bœuf Bruce entassé là avec ses congénères, et surtout cette espèce de couloir de la mort dans lequel on étourdit les animaux avec un pistolet d'abattage. C'est comme ça, je crois, ça s'appelle, avant de suspendre les vaches par une patte et de les passer à la disqueuse. Alors cette scène-là, elle est quand même extrêmement gore, extrêmement trash. Paul Frichet, c'est vrai que ça contraste avec le reste de l'album, mais ça en paraît peut-être encore plus violent. Vous vous êtes demandé jusqu'à quel degré de réalisme, de trash, de gore vous pouviez aller.
C'est une question qu'on s'est posée même sur cette scène-là, par exemple, pour savoir exactement ce qu'on pouvait montrer. Mais on s'est dit que autant le faire une fois et vraiment que ce soit marquant et que ça vienne un peu en disruption du style du récit, en fait, pour que ça vraiment pour taper du poing à ce moment-là, en fait.
Oui, c'est très efficace, ça, je vous confirme. Il y a beaucoup de sang, hein, il y a le zzzz de la disqueuse là en onomatopée, c'est terrible. Pour le coup, c'est radiophonique, ça.
Oui, oui. Mais je pense que c'est efficace aussi parce qu'on l'a pas fait tout le long, on l'a fait vraiment une fois et on l'a fait vraiment quand on l'a fait.
Oui, il y a même le cadrage qui monte la lame qui rentre en fait directement comme ça dans la chair, et puis il y a la tête de vache là, comme ça dans une mare de sang. Est-ce que le but de cet album, Stéphane Bette-BD, c'est d'embêter les bouchers et c'est de transformer le lecteur en végétarien?
Embêter les bouchers, non, absolument pas. Je suis pas du tout contre les artisans bouchers.
Parce qu'il y a beaucoup de polémiques en France depuis quelque temps là-dessus, hein.
Ouais. Alors, est-ce que tout le monde... une BD pour que tout le monde devienne végétarien ou vegan? Non, je fais pas du prosélytisme, mais je pense que vu ce qui se passe aujourd'hui au niveau climatique, il est important que chacun ait une consommation de viande réfléchie, raisonnée, et que pour l'élevage représente à peu près... Tout ce qui est autour de l'alimentation représente 30% des émissions à effet de serre. Si on baisse notre alimentation, ça permettra de vivre mieux, en tout cas d'essayer de baisser nos émissions d'effet de serre. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de le prendre en considération.
Donc pas de prosélytisme, mais quand même une dimension militante.
Oui. J'aime pas quand une œuvre est militante, en fait. Parce que je pense... J'ai jamais lu de bonne œuvre militante, parce que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, dans une œuvre militante... On perd les personnages pour aller vers la démonstration. Et là, inversement, moi, j'ai essayé vraiment de suivre les personnages en m'ôtant cette volonté militante. Oui, vraiment, je suis avec les personnages, je suis dans cette fable. Et si y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire selon leur personnalité, donc je ne vais pas leur dévier leur parcours.
Voilà. En tout cas, si on ouvre l'album, hein, on découvre sur la page de garde les différents animaux qui sont les héros, hein, de ce récit. On a l'impression d'être chez le boucher, quoi. C'est-à-dire que découpé les corps, Paul Frichet, exactement comme lorsqu'on voit une vache ou un mouton dans sa boucherie charcuterie.
Oui, c'était un peu le jeu graphique avec le. Avec le style un peu papier découpé, froissé, c'était, oui, c'était le clin d'œil à, aux planches de Boucher, ouais.
Ouais, et si on le lit avant de passer à table, je vous garantis qu'on n'a pas trop envie de bidoche, hein, par la suite, Stéphane Bedbédé. Et puis il y a une autre scène qui ne se passe pas à, la, à l'abattoir, mais qui, moi, m'a profondément ému, c'est la scène de l'autoroute avec cette famille de hérissons qui traverse hein, la route et qui va être brutalement endeuillé. Ça m'a absolument traumatisé, mais je vous assure, j'exagère, mais j'exagère absolument pas. Alors que c'est une scène, mais qu'on a tous vue.
Et qu'on voit de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de hérissons qui traversent les routes. Il y a, comment dire, la population de hérissons a baissé, mais drastiquement, en fait. On en croise de moins en moins, alors que, on s'en souvient pendant notre enfance, on en a tous croisé énormément. Ça me fait penser à un exemple aussi, parce que vraiment la biodiversité, je pense qu'on y reviendra, il y a un gros problème en ce moment. Il suffisait que toi tu disais que tu faisais la route entre Toulouse et Paris, avant on devait s'arrêter tous les 150 bornes pour laver son pare-brise parce qu'il y avait des moucherons et des moustiques. Maintenant il n'y a plus besoin. La biodiversité est complètement en berne.
Ce qui en dit long, effectivement, ouais. sur la disparition de certains animaux. Mais alors, cette scène du hérisson, je voudrais quand même y revenir, parce que on vous l'a raconté, graphiquement parlant, Paul Frichet, à hauteur de hérisson, quoi. Et c'est vrai que le cadrage joue énormément dans votre façon de construire votre récit. C'est-à-dire qu'on est réellement au plus près, à la hauteur des animaux.
Oui, parce que c'était tout le principe, nous, de ce que... Un peu le cahier des charges qu'on s'était donné, c'était une histoire à hauteur d'animaux, en fait. Donc, tout en, ce qui fait que, par exemple, on a essayé au plus possible de mettre les humains un petit peu hors champ, comme dans un récit classique, on aurait mis les animaux hors champ.
Oui, ils apparaissent de façon extrêmement fugace.
Voilà,
il y en a quelques-uns.
Mais souvent, ils sont masqués. Qu'est-ce qu'on a vraiment essayé de faire sur ce tome-là? Autant que possible, tant que ça nous empêchait pas de raconter correctement l'histoire, pour revenir un peu à ce que disait Stéphane sur cette priorité de raconter d'abord une histoire et... Mais oui, l'idée, c'était vraiment d'être à hauteur d'animaux, quoi. Donc, que ce soit pour...
Et donc, avec des cadrages, des plans larges, mais des plans aussi extrêmement, extrêmement rapprochés. Et toujours, effectivement, quand vous dites à hauteur d'animaux, c'est vraiment au sens propre, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la focale est vraiment précisément, focalisée, c'est le cas de le dire, au niveau physique de chaque animal, quoi.
Oui, voilà, et en plus...
Que ce soit le coq, la vache ou le mouton.
Oui, mais par exemple pour la scène des hérissons, ça permet aussi d'avoir des entre guillemets des jeux graphiques avec des histoires d'échelle entre la taille d'une voiture par rapport à un hérisson. Donc ça permet de jouer aussi avec ça.
Ou une gigantesque vache qui se soucie de la mort d'un petit hérisson.
Voilà. Ça qui est drôle aussi.
Donc jouer sur les contrastes pour montrer effectivement la différence de taille, la différence de niveau, la différence de puissance et donc l'impuissance des animaux par rapport à tout ce qui peut leur arriver.
Oui, voilà.
Qui ne sait pas voler? Chasse les oiseaux qui sous l'eau ne sait pas respirer. Mais qui suis-je donc pour me croire le plus fort, pour me croire tout permis, me donner le droit de vie et de mort? Que dire encore?
Je suis le moins humain des animaux.
Je suis le pire.
Je pense à rien qu'à sauver ma peau.
Pour ainsi dire,
le plus sauvage des fours en cage. Je suis de loin le moins beau.
Qui invente la bombe? Qui se moque? Donc, pour me
drôle d'animal, Calogero dans VMDN sur RFI, et ce drôle d'animal qui est l'homme, Stéphane Bettebédé et Paul Frichet. Il est très présent sous forme de menace dans l'album, mais effectivement, comme on le disait à un instant, il est graphiquement assez peu dans vos cases, Paul Frichet. En fait, non seulement vous parlez de ce que les animaux voient et vivent à hauteur d'animal, mais on a un peu l'impression que même dans leur discours, dans les mots qui sont dans les phylactères, pour eux finalement, l'homme, c'est un autre animal, c'est un élément du décor, et pas beaucoup plus. Stéphane Bettebédé.
Un élément du décor,
presque. C'est une menace, hein, effectivement, mais il y a aussi d'autres prédateurs. Donc, un prédateur parmi les autres
Non, le prédateur numéro un. Je suis surpris par cette question, parce que, oui, on le croise pas.
Très peu.
Mais la menace est sous-jacente, présente, ouais. En fait. Elle est tout le temps là. Et en fait, c'est un peu l'écriture que j'aime bien dans le fantastique, où quand il y a un élément qui est une menace, il est souvent hors champ. Et c'est en ça qu'il est le plus flippant. C'est qu'on le voit pas, c'est qu'on le sent. Elle plane tout le temps, comme dans les vieux films Halloween avant que le tueur arrive. Enfin, ce genre de choses, où je pense plutôt... je me souviens plus les réalisateurs, mais oui, cette écriture où on suggère plutôt qu'on ne montre, en fait. Et donc, oui, cette menace-là est sous-jacente tout le temps.
Et puis, il y a ce mot abattoir, là, qui est aussi un mot qui dont la menace plane également de la
c'est
même façon
de la
sur
même
l'ensemble.
Chose, oui, exactement.
Voilà. Et c'est vrai que vous avez donc essayé d'imaginer la manière de chacun de vos héros, de chacun de vos animaux, d'appréhender le monde. Vous êtes mis à la fois dans leur tête et dans leur corps. Comment on fait ? Vous êtes nourri de livres d'éthologie ?
Oui, je lis beaucoup des livres d'éthologie. Et notamment, ce qui a été révélateur, c'est les livres de Franz De Waal. Le dernier en date s'appelle « La dernière étreinte » et le précédent, c'était « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ?» Quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça m'a ouvert un peu... ça m'a changé un peu la perception des animaux que j'avais quand j'étais enfant, ayant vécu beaucoup à la ferme, où mes grands-parents, d'ailleurs je leur fais une dédicace dans l'album, m'avaient appris à distinguer les animaux et me faire comprendre que chacun avait une personnalité différente, et c'était vraiment tangible, en fait. Et j'ai retrouvé ça dans mes lectures d'éthologie, en fait. Et je me suis dit, ben voilà, oui, les animaux, ils ont leur sensibilité. D'ailleurs, c'est rentré dans la loi, dans la Constitution en 2015. C'est des êtres sensibles. Et plus on avance sur les études en éthologie, plus on le sait. Les animaux sont des êtres sensibles, intelligents et qui peuvent être très étonnants, bien sûr.
Et c'est vrai que vos dessins, Paul Frichet, les visages que vous dessinez reflètent des émotions qui font penser à des émotions humaines. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez dessiné exactement comme si vous dessiniez des visages d'hommes, des visages d'êtres humains ? Ou est-ce que vous êtes parti des attitudes animales de chacune de vos espèces pour les représenter ?
Je suis un peu parti de toute façon des contraintes physionomiques des animaux, mais je pense que j'ai dû avoir une approche que moi je viens quand même forcément beaucoup du dessin de personnages humains, donc je pense que forcément il y a forcément eu des choses qui sont passées de l'humain à l'animal, mais en même temps c'est ce qui nous permet peut-être aussi à nous humains d'arriver à se projeter dans ce que peuvent ressentir les animaux. Faut que on arrive un peu à retrouver de nous-mêmes dans la façon dont ils s'expriment aussi, pour faire mieux passer l'empathie avec les
personnages.
C'est
vraiment un mélange des deux, hein, le chien il monte les crocs comme un vrai chien dans la vraie vie. Les yeux, par exemple, comment vous avez traité les yeux? On parle toujours de regard bovin, c'est pas toujours très sympathique, un regard bovin. Donc comment vous avez travaillé sur les yeux de Renata, par exemple?
De garder ces espèces. Alors, par exemple, c'est vrai que c'est, par exemple, pour les personnages de vaches, c'est là où j'ai le plus de difficultés à trouver le système pour la faire fonctionner. Mais il faut arriver à gérer cet écartement des yeux que les vaches peuvent avoir. Et en même temps, trouver des espèces d'astuces, presque des triches pour un peu pour créer une expression qui soit reconnaissable pour les humains, c'est-à-dire trouver des espèces de systèmes de plissement de sourcils ou de choses comme ça pour que ça puisse passer. Donc c'est toujours un jeu un peu entre les deux de l'anthropomorphisme, mais le moins possible, voilà, pour que ça fonctionne.
Voilà, et donc c'est vraiment une question de dosage. Alors, tous les personnages ont vraiment une personnalité bien marquée. Il y a la brebis bretonne, Soisic, qui a un sacré caractère. Il y a Renata, la vache, qui parle beaucoup, un petit peu trop d'ailleurs, peut-être aussi, parce qu'elle est un petit peu gaffeuse sur les bords. Et puis il y a Ferdinand, qui revendique sa fierté de coq et qu'on va découvrir sous un jour assez inattendu au détour d'une scène, on va pas tout raconter. J'ai pensé un petit peu quand même au roman de Renard, Stéphane Bette-Bédé, au conte du chat perché aussi peut-être de Marcel Aimé. Ce sont des références que vous aviez en tête ?
Pas du tout, mais maintenant que vous m'y faites penser, c'est des lectures d'enfance qui m'ont beaucoup marqué. Oui, donc c'est inconscient, mais oui, ça a dû y participer énormément, oui.
Alors, dans les contes du chat perché, le chat est plutôt intelligent et malin. Chez vous, au contraire, c'est le méchant. Hein. Il est borgne et il s'appelle Ignoble Créature. Il vous fallait absolument un méchant parmi les animaux, Stéphane Bette-Bédé.
Il y a deux types d'humains. Il y a ceux qui aiment les chiens et ceux qui aiment les chats. Moi, je fais partie des gens qui aiment les chiens. Et donc, j'ai un peu plus de mal avec les chats. Et puis, c'est surtout un clin d'œil, ayant une culture... je regardais beaucoup Les Nuls dans les années 90 et ils tapaient ardemment sur les chats. Ouais. Et donc, ça m'y a fait penser. Je me suis dit, je vais continuer à perdurer cette coutume en tapant sur les chats, donc Ignoble Créature.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec le scénariste Stéphane Bette-Bédé et le dessinateur Paul Frichet pour L'Arche de Néo, une saga animalière dont le premier tome, À mort les vaches, est paru chez Glénat, et le photographe Ludovic Sueur nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Vous êtes photographe animalier, vous travaillez pour des revues comme Terre Sauvage, Images et Nature, Rustica, Alternative Végétarienne, mais vous êtes un photographe animalier qui s'affiche comme antispéciste. Concrètement, dans votre travail, ça veut dire quoi ?
Alors concrètement, plus que dans mon travail, en fait, dans ma vie quotidienne, mais ça veut dire que je vais nuire le moins possible aux animaux que je photographie, et surtout, à travers mon travail, je vais essayer de montrer et de faire réfléchir aux gens sur la personnalité des animaux, sur le fait que ce soit des individus. Voilà.
Donc nuire le moins possible aux animaux. Alors ça peut paraître étonnant, parce que c'est vrai que dans la vie, on a toujours l'image que photographe animalier, c'est forcément un amoureux de la nature, c'est forcément un amoureux des animaux. Visiblement, c'est pas toujours vrai. Il y a des pratiques qui peuvent être dangereuses.
Oui, il y a des pratiques qui peuvent être dangereuses. En fait, il y a deux façons d'être photographe animalier. Soit on le fait pour les animaux, soit on le fait pour la photographie. Et du coup, la démarche est totalement différente. Et quand on le fait pour la photographie, on est prêt à tout pour avoir la photographie qui va cartonner, comme on dit.
Par exemple.
Et par exemple, ça part. Par exemple, ces photos où on voit un crapaud ou une grenouille avec un escargot qui est en train de lui passer dessus, c'est quelque chose qui est totalement inconcevable, qui est totalement impossible. Dans la nature, on va dire, enfin, ils le feront jamais. D'une part, parce que le crapaud ou la grenouille ont un mucus sur la peau qui va empêcher l'escargot de monter dessus. Et d'autre part, ce serait très étonnant qu'une grenouille supporte un gros escargot longtemps, elle va se déplacer avant.
Mais bon, là, on va dire qu'il y a une forme de scénarisation. Mais en quoi ça peut nuire aux animaux ? En quoi est-ce que c'est dangereux pour eux ?
Alors, c'est dangereux parce que la grenouille en question, on va l'endormir. Donc, il y a plusieurs méthodes. On peut la passer au frigo, on peut la tuer aussi. Et l'escargot, bien sûr, on va le déplacer jusqu'à ce qu'il ait la bonne posture sur la grenouille.
Ah d'accord, donc c'est vraiment l'envers du décor du travail de certains photographes animaliers. Alors vous avez donc décidé de ne pas faire comme ça, de prendre davantage de précautions, de travailler différemment. Ça veut dire de travailler de plus loin, ça veut dire aussi d'attendre l'instant décisif, si j'ose dire.
Ça veut dire effectivement alors faire beaucoup de repérages. Je passe beaucoup de temps finalement sans appareil photo, mais à observer ce qui se passe et à pouvoir prévoir et essayer de scénariser ma photo, mais en prenant en compte les déplacements des animaux sauvages. Là, je photographie pour le moment surtout des animaux sauvages. Et ensuite, tenir compte de l'emplacement du soleil, donc les horaires où il sera présent, le lieu, etc. Et c'est tout à fait autre chose, donc ça met beaucoup plus de temps, effectivement, pour faire une photographie.
Donc ça veut dire aussi travailler au loin, travailler beaucoup au téléobjectif ?
Alors au téléobjectif et ou camouflé, donc avec des affûts, des fois des temps d'approche qui approchent de l'heure ou l'heure et demie pour faire les 30 derniers mètres. Et voilà.
Alors,
Mais après, oui, effectivement, pour revenir aux photos, quand j'étais gamin, je prenais toujours le calendrier de la poste avec les animaux mignons dessus. Et en fait, c'est le cas typique d'animaux qui sont voilà, qui sont manipulés pour être mis en scène sur ces photos-là, puisque voilà,
un peu comme le personnage de Neo qu'on évoquait
voilà,
au début
c'est
de l'émission.
Ça. On y revient. Et en fait, voilà, le photographe a pas de temps à perdre. Il faut qu'il sorte 200 photos et dans la journée. Il a 300 chatons.
Stéphane Belvédé.
Ça me rappelle quelque chose dans la lecture justement de Frans de Waal dont je parlais, qui est le primatologue qui a étudié les primates pendant plus de 30 ans. Il disait que quand il voyait une émission où un singe à la télé qui souriait, qui faisait marrer tous les enfants et tout ça, lui, il était horrifié parce qu'il savait que le sourire était un rictus et que le dompteur le torturait pour qu'il sourie, en fait. Donc, ce qui provoquait le rire chez l'humain était en fait une torture chez le chimpanzé.
Alors, vous avez monté, Ludovic Sueur, une exposition intitulée « Conscience et personnalités animales ». Qu'est-ce que vous appelez personnalité animale? Parce que là, on est un peu dans l'anthropomorphisme, non?
Non, pas du tout. On sort, en fait, de l'anthropocentrisme. Et les animaux étaient jusqu'alors considérés comme étant chacun représentant de leur espèce et d'un comportement, alors que les études éthologiques les plus récentes démontrent que chaque animal a vraiment sa personnalité et sa vie propre intérieure.
Mais chaque animal ou chaque espèce d'animal, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, voilà, chaque animal vraiment au sein des espèces, hein, mais chaque animal a sa propre personne. Et se comporte, on se rend compte que par exemple même les insectes, les fourmis par exemple, qui sont des animaux sociaux, on pensait jusque-là que c'était, elles avaient toutes le même comportement, et on se rend compte que pas du tout en les observant beaucoup plus finement et voilà.
Alors, est-ce que l'idée, je poursuis dans mon idée d'anthropomorphisme ou pas, est-ce que l'idée, à travers vos photographies, c'est d'inciter l'œil de celui qui regarde à projeter une forme d'humain, une forme d'humanité dans le modèle ou dans l'animal que vous photographiez?
Non, pas du tout, parce que chaque espèce est différente et a ses caractéristiques propres. Par contre, j'invite les gens à vraiment observer un individu. Donc c'est pour ça qu'il y a mon exposition se compose de deux parties. Une partie en noir et blanc qui permet vraiment de voir l'individu lui-même. Donc c'est très graphique et c'est très très centré sur l'individu. Et tout le travail en couleur que j'ai à côté va plus être sur l'individu dans son environnement et dans ses interactions avec d'autres individus éventuellement.
Alors quelques-uns des clichés de ces deux séries sont devant nos deux auteurs. La série en noir et blanc est devant vous, Stéphane Belvédé. Il y a une photo comme ça qui vous intéresse particulièrement, peut-être celle du cochon, puisque Néo est votre héros.
C'est très curieux parce que la photo en gros plan du cochon où on est sur ses sourcils, arcades sourcilières français, et qui fixe sur son œil, qui regarde en coin, c'est quasiment le même cadre que j'avais mis dans le dossier de mon projet avant que Paul ne fasse les essais sur les pages. Donc, elle me plaît beaucoup, celle-là, elle est très signifiante pour moi.
Oui. Alors, quelle est la personnalité de ce cochon tel qu'elle apparaît à travers votre photographie, Ludovic Sueur?
Alors, c'est très intéressant, justement, cette photo, et qu'on en parle, justement, par rapport au livre aussi, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est un cochon qui a été abandonné, ça, visiblement, et qui a été récupéré par un refuge, le refuge Groin-Groin, donc qui est j'ai vu un peu vos planches, et qui est une espèce de ferme où tous les animaux sont recueillis comme ça, qui avait aucune chance de survie.
Ah oui, donc les deux destins des personnages se rejoignent.
Se rejoignent, tout à fait, ouais. Et sauf que Bella Paco, le cochon en question qui est photographié, lui, il a trouvé une oasis au milieu des abattoirs, quoi. Et il a un vœu de paix. Il vit paisiblement au milieu d'autres individus, et c'est très intéressant de pouvoir se rendre à ce genre de refuge où on voit les interactions et on voit les personnalités différentes des individus qui sont vraiment très fortes.
Alors vous, Paul Frichet, devant vous, vous avez le coq. Alors là, c'est pas Ferdinand, hein, il est un petit peu moins fier quand même, le volatile que vous avez devant les yeux. Il y en a deux d'ailleurs, parce qu'il y a deux photos différentes.
Oui, j'ai une autre photo avec une scène avec ce qui m'a l'air d'être une maman poule avec son poussin, et c'est vrai qu'on voit... Je sais pas, là c'est pareil, est-ce que c'est de l'anthropomorphisme ou pas, mais on sent une sorte de... De lien affectif entre les deux, en fait.
Oui, on a l'impression qu'elle protège le poussin. Ouais. Parce que nous, on est obligé de raisonner en termes humains, quoi. Le regard que le spectateur a sur chacun de vos clichés, il est forcément humain. Donc forcément, on doit faire des comparaisons et des rapprochements qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Mais finalement, chacun de nous invente une histoire à partir de votre photo.
Ouais, alors il y a des histoires qu'on peut inventer. Par contre, il y a des émotions qu'on partage avec les autres animaux, avec les autres espèces, avec les autres humains aussi, et donc on les retrouve et on peut les décrypter assez facilement sur une photo comme celle-là où c'est une poule qui est en train d'apprendre à ses petits quelles graines il faut manger, donc eux observent et après ils reproduisent et ils goûtent ce que la mère propose.
Mais alors cette photo là concrètement, donc vous avez attendu combien de temps pour la prendre, parce que c'est une scène assez vie quotidienne finalement, telle que vous la décrivez, c'est pas une scène rare.
Voilà, c'est pas une scène rare, c'est une scène d'apprentissage. Il y en a plein, apprendre à faire un nid de poussière, apprendre à manger, apprendre à se méfier aussi. Voilà, dès qu'il y a un oiseau qui passe au-dessus, on va se planquer sous les arbres. Et je les suis sur une journée. Et c'est ce qui me permet de voir tout leur comportement et de choisir les meilleurs moments.
Stéphane Lebel.
Quand tu prends ces photos, ils ont conscience de ta présence ou tu t'es fait complètement oublier ou... Vous êtes auto-amadoué, comment ça se passe en fait?
Oui, est-ce qu'il y a une phase
Bonne question en fait. Il y a effectivement, là ce sont des animaux qui sont paisibles hein, puisqu'ils sont pas en élevage et puis ils sont pas destinés à passer à l'abattoir. Et effectivement, d'abord ils m'observent, moi je les observe aussi. Et puis petit à petit, au début ils se méfient toujours un peu, que ce soit au refuge ou que ce soit là ici pour ces poules. Et on s'amadoue, c'est-à-dire que je vois très bien qu'au bout d'un moment, j'ai pas de geste qui soit menaçant. Je m'approche doucement et puis moi, de mon côté, j'essaie de prévoir où ils vont aller et de pouvoir faire des clichés.
Alors parmi les autres photos en couleur, il y a celle du lapin. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que je trouve que le lapin pris en photo par Ludovic Sueur ressemble un petit peu au lapin de la bande dessinée.
C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la photo. Ça m'a rappelé
la couleur, la posture, même. Bon là, il sourit pas trop, même l'attitude, hein, vraiment, là, y compris au niveau des traits du visage.
Oui, mais ça me rappelle ma période où je faisais la recherche du personnage, où je consultais la documentation et j'ai dû tomber sur des photos, pas celle-ci, mais des photos comme ça. Ouais.
Bon, là aussi, c'est vraiment la personnalité du lapin telle qu'elle est. Oui. On a l'impression qu'il est aux aguets, ou qu'il a toutes les oreilles dehors pour le coup. C'est un petit peu le radar là qui met en route.
Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait ça, puisqu'en fait, ce qui s'est passé lors de cette photo, moi, j'étais en affût, donc j'avais repéré une garenne. Et un lapin qui est arrivé à côté de moi, juste à côté, et qui a vu l'affût et qui se demandait mais qu'est-ce que c'est que ça. Donc il prévient ses petits copains en tapant du pied, et celui-ci était en train de remonter du champ qui est en dessous, et du coup il s'est arrêté, il a bien écouté le signal qui lui était lancé, et il observait, il regardait dans ma direction, puisqu'effectivement il n'avait pas vu un buisson quelques heures avant là où j'étais, puisque je ressemblais à un buisson, et voilà, il est resté interrogatif comme ça une trentaine de secondes, et après il a continué à faire sa vie puisqu'il a vu que ça bougeait pas, qu'il y avait pas de danger finalement.
Alors, quelques mots sur le lapin de la BD, Stéphane Bette-BD, parce que c'est un personnage charnière dans l'histoire. C'est parce que bon, il y a une scène qui se passe en forêt, donc les animaux qui fuient la ZAD, donc les animaux domestiques, les animaux de la basse-cour, croisent des animaux sauvages, des animaux de la forêt, et notamment ce lapin qui est un métis, quoi. D'une certaine façon, il est mi-sauvage, mi-domestique.
Exactement. C'est le personnage qui fait lien entre ce que fuient les personnages et vers où ils vont, d'une part. Et puis j'avais envie d'avoir un personnage qui soit un peu démurge, qui connaissait un peu l'origine des croyances animales et qui explique un peu comment les animaux et les humains en sont venus à se séparer avec toute une mythologie. Et d'autre part, c'était aussi un clin d'œil à Watership Down, qui est un roman phare qui m'a beaucoup influencé aussi pour l'écriture de l'Arche de Néo.
Voilà, et que vous citez hein, d'ailleurs dans vos remerciements, un roman d'un auteur britannique qui s'appelle Richard George Adams, et qui vous a, c'est ce que vous écrivez littéralement, scotché. Pourquoi ?
Exactement. J'ai un souvenir très précis de mon frère un soir de Noël qui avait ce bouquin-là et qui lit un extrait, et j'étais subjugué de savoir que je pouvais être en totale empathie avec l'aventure de Petit Lapin. Sur le papier, jamais j'aurais cru que ça soit possible.
Oui, donc c'est une histoire de lapin qui fuit l'Angarenne et qui essaie de reconstruire une autre. C'est un livre qui est paru en France assez récemment, hein, qui date un petit peu, mais qui a été publié en France en 2016, je crois.
Il date des années 70. Il a été réédité et traduit par Toussaint Louverture, qui font de superbes bouquins. Et c'est par ce biais-là que je l'ai connu, oui.
Donc il y a les lapins, dont on disait, donc votre lapin, c'est vraiment un personnage charnière de l'album, entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et il y a aussi une confrontation qui est vraiment importante, c'est la confrontation entre le cochon domestique et le cochon sauvage. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que l'homme, à travers l'élevage, a complètement bouleversé l'équilibre de la nature, quoi.
Ah oui, on a inventé des races qui sont faites juste pour notre consommation, qui même certaines ne pourraient pas vivre à l'état naturel. Enfin, je ne vais pas raconter des histoires assez sordides sur certains cochons, certaines races de cochons, mais oui, on a créé des espèces qui ne pourraient pas vivre sans nous. Et d'ailleurs, j'y fais référence avec Renata la vache laitière, qui a besoin d'être traite, sinon elle souffre trop. Et pourquoi elle a besoin d'être traite? Parce qu'elle a été sélectionnée par l'humain pour pouvoir avoir une production de lait énormissime.
Alors, vous avez aussi travaillé, je crois, Ludovic Sueur, sur des animaux en captivité. Alors là, on n'est plus du tout dans la même façon de travailler, forcément.
Non, pas du tout. Ben là, c'est pour dénoncer la captivité, voilà, que ce soit dans les cirques ou les zoos. Après, je veux bien revenir deux minutes sur le lapin rapidement. Et le cochon. Parce que le lapin, c'est un très bon exemple, et c'est bien que ce soit un pilier, en fait, de la bande dessinée, parce que c'est vraiment l'espèce d'animal qui est utilisé de toutes les façons par l'humain. C'est-à-dire qu'on le retrouve partout sur les tests pour les cosmétiques, sur les tests pour la médecine, pour la recherche. On les consomme, on se sert de leur fourrure. Voilà, on les a comme animaux de compagnie. Ils sont chassés. Enfin, vraiment, eux subissent tout ce qui peut être subi par les humains, quoi. Pour revenir aux cochons, effectivement, les races qui sont sélectionnées pour l'élevage, il y en a qui sont récupérées au refuge Gouingouin et qui vivent plus longtemps que leur destin de cochon de chair, puisque les cochons de chair vivent 6 mois, et ils se retrouvent avec des pathologies que les vétérinaires ne connaissent même pas, puisque les sélections font que on se retrouve avec des cochons trop gros pour leurs pattes, et voilà, il y a beaucoup de soins à leur apporter.
Voilà, donc on apprend effectivement énormément de choses grâce à vos différents travaux artistiques. Merci beaucoup, messieurs Stéphane Bette-Bédé, Paul Frichet. À mort les vaches, le premier tome de l'Arche de Néo chez Glénat. Le second est prévu pour...
Ah, il est en train d'y travailler. Exactement. Voilà. Donc, la question qui fâche. Mais
voilà, et on va changer de milieu, là. Il ne sera plus question d'abattoir. Où est-ce que vous nous emmenez dans le tome 2, on peut le dire?
Dans différents endroits, mais pas dans des abattoirs, oui. Ce coup-là.
Bon, le suspense, alors.
Ouais, on va maintenir le suspense, mais...
On voit des animaux dans des cirques.
Voilà.
Dans des cirques, voilà, c'est déjà une dédication plus qu'importante. Merci également à vous, Ludovic Sueur, et finir qu'on pourra voir votre exposition à Marseille le 26 avril, et puis à Paris du 13 au 18 mai au Fétou. Merci beaucoup. Terrandour, le sens de l'eau, c'est le titre de l'un des albums de l'ensemble choral du bout du monde que vous aviez envie de nous faire découvrir aujourd'hui. Alain Pilot, bonjour.
Bonjour Jean-François et bonjour Stéphane Bette-Bédé, Ludovic Sueur et Paul Frichet. Une fois n'est pas coutume, pas d'actualité spécifique, mais en effet j'avais envie de m'arrêter sur ce regroupement de 3 chorales qui, à la fin des années 70, a décidé d'axer son travail essentiellement sur la création bretonne, texte, musique et arrangement, reconnu comme l'un des meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux de Bretagne, primé à plusieurs reprises, notamment en 1989 aux États-Unis, où il a reçu un award pour son album Noël Celtique.
Et son porte-parole, c'est Charles Andréo, je l'ai bien prononcé.
Oui, parfait.
Charles Andréo, qui vous a d'abord expliqué, Alain, ce que représentait le conte dans le répertoire de son ensemble.
Chaque histoire est un conte, finalement. C'est un truc fantastique, le conte, parce que ça permet de mettre des choses qu'on n'oserait peut-être pas dire en les présentant comme des vérités. Donc on dit, en fait, je vais vous raconter un truc. C'est pas vrai, mais bon, Il y a toujours quelque chose de vrai ou de prophétique dans un conte. Alors nous, on en fait un peu, mais il y a des gens qui le font peut-être plus que nous en Bretagne. Ça a toujours une grande importance. Et les enfants, en fait, vivent de contes. Et nous, en tant que grands enfants, on aime bien aussi de temps en temps. C'est assez marrant parce que l'un des chants, là, qui s'appelle Varroaz Martezé, et Demain peut-être, c'est en fait un chant dans lequel j'ai mis des choses que j'aimerais bien voir, mais que je verrai sans doute jamais. Et un jour, je présentais le chant et je disais au public, quoi, à la fin, voilà, Varroaz Martezé, demain peut-être, ou peut-être pas. Et je me suis fait accrocher par des choristes à la fin qui m'ont dit « Mais pourquoi t'as dit ça ?» Je dis « Mais parce que c'est la vérité. » Elle me dit « Bah ouais, mais nous, c'est parce qu'on veut entendre. Nous, on veut entendre des belles histoires. » Et en fait, le conte, c'est ça qu'on aime bien. Ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Le conte est très important, je crois.
Varroaz Martezé, le nom militant ensemble choral du bout du monde.
Qui a été invité par ses compatriotes Gilles Servat et Alan Stivell sur scène ou sur disque. Et
Charles Anandréo raconte.
Avec Alan Stivell et Gilles Servat, en fait, disons que je les connais depuis une quarantaine d'années. Alan Stivell, pour moi, ça a été le bonhomme qui nous a fait comprendre que notre musique bretonne était très proche des musiques américaines dont beaucoup étaient importées d'Irlande. Et je me souviens d'un morceau qui s'appelait Poplin à l'époque, qui est en fait une juxtaposition de deux morceaux, pop, la musique pop telle qu'on la connaissait, et Plin qui est une danse du centre-Bretagne. Et à un moment, il part sur un rythme et il arrive à coller les deux en même temps, et en fait le Poplin se danse, et à la fois c'est tout à fait la musique pop qu'on peut entendre des États-Unis. Donc Stivell, ça a été, je vais pas dire le précurseur parce qu'il y a eu Glenmore avant qui a ouvert le chemin, mais Stivell a été le musicien quand même qui a ouvert un nouveau sillon de musique. Et Servat, ça a été la voix, quoi. Le gars qui a poussé des coups de gueule, qui est à la fois quelqu'un qui peut s'emporter pour des causes tout à fait justes, et qui est aussi un sacré poète, quoi. Et quand ils nous ont invités, alors Alan Stivell, on a chanté avec lui sur Emerald, on a dû faire Lorient avec lui, le festival interceltique, et on a fait avec Servat l'Olympia. Et j'avoue que c'est quand même des sacrés grands moments, quoi. Chanter avec des gens comme ça, c'est hyper agréable.
Alan Stivell, donc vous appropriez le tri Martelode.
Ensemble chorale du bout du monde qui reprend donc Tri Martelode d'Alan Stivell. Alors, qui d'autre a pu s'approprier cet ensemble-là ?
Jean-Jacques Goldman.
Ah ! Je l'ai jamais rencontré. C'est très marrant parce que Goldman, en fait, pour moi, c'était quelqu'un qui faisait du rock. J'étais pas très rock. Moi, j'étais plutôt chanson à texte. Et en fait, un jour, il y a un gars, Jean-Marc Kernin, là, qui était organiste avec nous, qui me dit, tiens, ça te dit pas d'écrire un morceau de Goldman en breton ? Écoute, né en 17. Donc j'ai écouté ça, et je me suis dit, waouh. Il me dit, tu veux pas me le mettre en breton? Il avait en fait une manécanterie avec des jeunes enfants, il me dit, j'aimerais bien le faire, ça, et peut-être le faire chanter à la chorale. Et du coup, j'ai découvert le texte de Goldman, et du coup, on s'est lancé là-dedans, et on s'est dit, tiens, on va le faire avec la chorale, quoi. Et j'avoue que, alors ça c'est des rêves qu'on a. Le rêve que j'ai, ce serait d'inviter tous ces gens-là avec qui on a travaillé, de faire un concert commun. C'est-à-dire Idir, Imouvrini, Jean-Jacques Goldman, évidemment, et puis d'autres.
Et les titres de Goldman, ils s'appellent comment en breton ?
Alors, Bugel Air Brezel, c'est-à-dire Enfant dans la guerre.
Bugel Air Brezel, la version bretonne de Né en 17 à Leidenstadt par l'ensemble choral du bout du monde. Merci Alain. Dans un instant, l'info sur RFI à demain avec du théâtre, Les Chaises, la pièce d'Eugène Ionesco mise en scène par Bernard Lévy au théâtre de l'Aquarium avec deux comédiens exceptionnels, Emmanuel Granger et Thierry Bosque. Et vous m'en direz des nouvelles.